Le lundi soir sur Fusion. Installé dans le grand canapé noir du studio Georges Debs, Ignace en toute intimité vous fait découvrir son invité pour un moment privé en tête à tête. Tous les lundis soirs de 21h à 23h. Salon privé, une émission de la nuit sur Fusion.
Vous êtes sur Radio Fusion et c'est Salon Privé jusqu'à 23h. Nous sommes heureux d'accueillir ce soir une femme de caractère, une femme de pouvoir, dont les ambitions sont connues de tous. Lors de l'installation de la CTM, elle se porte candidate à la présidence du comité martiniquais du tourisme. Nous allons donc, avec elle, faire le point sur la situation de l'industrie du tourisme chez nous. Femme expansive d'une spontanéité naturelle, Karine Mousseau inspire sympathie au premier abord. Au François, sa commune pour laquelle elle nourrit de l'ambition, où en est sa popularité? Karine Mousseau, présidente du comité martiniquais de tourisme, le tourisme martiniquais a-t-il trouvé en elle la bonne personne? Karine Mousseau, bonsoir.
Bonsoir Ignace, merci pour cette invitation. Bonsoir à toutes, à tous.
Content de vous avoir à mon micro et d'avoir accepté mon invitation. Karine Mousseau, une enfance franciscaine?
Une enfance d'abord parisienne, puisque mon père est métropolitain. Et de Paris, et mon père, c'est une belle histoire d'amour, hein, l'histoire de mes parents, puisque mon père avait un meilleur ami martiniquais à Paris, et puis un jour on lui a proposé d'aller faire une partie de son service militaire en Martinique. Il a accepté, son meilleur ami étant martiniquais, et ce meilleur ami lui a dit: écoute, comme tu vas en Martinique, va voir ma famille, va voir ma maman, mes sœurs, mes frères, etc. Et c'est comme ça qu'il se retrouve en Martinique et qu'il rencontre ma mère, qui est la sœur de son meilleur ami. Et là, il tombe très amoureux. Et donc, il ramène ma mère avec lui à Paris. Et puis, donc, on est resté à Paris jusqu'à ce que j'ai 9 ans à peu près. Et puis, quand nous sommes rentrés en Martinique, effectivement, nous nous sommes installés au François parce que la famille de ma mère... et du François, du Saint-Esprit et du François, en fait. C'est la famille Hospice Glondu. Et puis nous avions déjà de la famille installée tout près au François, la sœur de ma maman notamment. Et puis c'est comme ça que je me retrouve au François, effectivement, au cours moyen 2. Et François que j'ai quitté pour mes études, pour travailler un peu, et où je suis revenue depuis que je suis revenue en Martinique.
Et ça a donné une fratrie de combien?
Eh bien, écoutez, j'ai 2 sœurs, donc nous sommes 3 filles. Très proches de ma mère, puisque nous habitons toutes sur le même terrain, en fait.
Pas de garçons dans cette famille ?
Pas de garçons. Donc nous avons fait, nous les filles, des garçons. Enfin, il y a 2 garçons qui sont nés. Moi, j'ai un garçon et ma petite sœur aussi un garçon. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles dans cette famille, beaucoup de femmes. Et je pense que c'est vrai que ça a joué aussi parce que ma mère est une femme forte et elle nous a élevés pour être des femmes fortes.
À la dure.
À la dure, oui, sans oublier l'essentiel, c'est l'amour. Voilà.
Karine Mousseau, des études réussies?
Eh bien, écoutez, je suis restée au François jusqu'au collège. Et puis en troisième, je suis partie au lycée Chalchère, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas de lycée au François. Et je vois l'avantage que c'est d'avoir un lycée au François, parce qu'à l'époque, on prenait le car et il n'y avait pas encore la route de Ducos. Donc, on passait par Morne-Pitot tous les soirs en car. Mais finalement, ce sont des beaux souvenirs. Et puis, je suis partie en terminale, passer mon bac à Paris. Au lycée Louis-le-Grand, parce que j'étais une bonne élève, j'avais de très bonnes notes, et puis mes parents avaient beaucoup d'ambition pour moi. Donc j'ai passé mon bac à Paris, j'ai fait une prépa HEC. Ensuite, j'ai fait des sciences économiques à la faculté, à la Sorbonne, plus particulièrement de l'économétrie. Et puis, entre-temps, je faisais des petits boulots parce qu'on a été élevés comme ça. On a toujours travaillé. Ma sœur était étudiante aussi avec moi, celle qui a 2 ans de moins que moi. On a toujours beaucoup travaillé. Et puis, je me suis retrouvée surveillante dans un lycée à Paris. Et puis là, j'ai découvert ce milieu. Ma mère était enseignante aussi, mais j'ai découvert ce milieu et je me suis dit finalement, j'ai envie d'être professeur. Et là, effectivement, j'ai passé le CAPES de sciences économiques et sociales. J'ai réussi et j'ai donc commencé à enseigner les sciences économiques à l'âge de 23 ans. Et je suis restée 8 ans à Paris à enseigner, enfin Paris et banlieue parisienne plus exactement. Donc voilà.
Beau parcours.
Oui, bah écoutez, j'ai
enseignante par vocation.
Enseignante par choix et par vocation, parce que c'est un métier qui me faisait envie parce que j'avais cette sensation que j'avais quelque chose à apporter aux autres et notamment aux jeunes. Et jusqu'à maintenant, j'enseigne malgré mes responsabilités politiques parce que je n'ai pas voulu justement lâcher ce métier que j'aime tant et qui fait mon équilibre. Parce qu'avec la jeunesse, on apprend beaucoup. On leur apprend beaucoup, mais finalement, je pense qu'ils nous apprennent autant qu'on leur apprend, voire plus. Et ils vous gardent en vie, les jeunes. Ils vous gardent dans l'air du temps, ils vous gardent dans la modernité. Et je sais que j'aurai beaucoup de mal à quitter mon métier. Donc là, j'ai pris un mi-temps. J'enseigne maintenant au lycée du François. J'ai enseigné 10 ans au lycée de Trinité. Et j'ai pris un mi-temps, mais comme je leur dis, voilà, quand je vois ma classe de terminale, je leur dis, vous êtes mon souffle, je respire, ouf. Et c'est vrai que c'est un métier qui me passionne parce que j'aime la matière que j'enseigne. Donc j'enseigne les sciences économiques et les sciences politiques. Je suis passionnée de politique, tout le monde le sait, donc c'est vrai que je le fais avec passion. Et puis voilà, j'essaie de les accrocher en dehors de tout ça, ces deux matières, ces deux sciences humaines, mais surtout tout simplement à la vie. Et ce que j'essaie de leur transmettre, c'est l'ambition. L'ambition que certains professeurs m'ont transmise, que mes parents m'ont transmise et que je voudrais voir naître dans leurs yeux parce qu'on a vraiment en Martinique une jeunesse magnifique.
Et comment on en arrive à la politique quand on est tant passionné par son métier d'enseignante?
Alors voilà, c'est ça, je suis passionnée par mon métier, je suis à la fois aussi très jeune, passionnée par la musique, j'adore la musique, je suis mélomane, je ne vis pas une journée sans musique, la musique me porte et m'apporte beaucoup, dans les bons et dans les mauvais moments. Et puis la politique, ça vient très vite dans ma vie, je vais dire presque à ma naissance, parce que je suis née du côté de mon père dans une famille où mes grands-parents, donc métropolitains, étaient très, très politiques. Ma grand-mère a été conseillère municipale toute sa vie dans sa petite ville d'Eure-et-Loire. Et ça parlait beaucoup, beaucoup politique chez mes grands-parents, où nous passions beaucoup de nos vacances scolaires avec ma sœur. Et donc, finalement, on a toujours, j'ai toujours baigné dans cette ambiance de débat, on écoute les infos et on s'intéresse à la politique. Et après, il fallait, mes grands-parents, il fallait aller voter, il fallait s'y intéresser, etc. Donc finalement, la politique, j'ai toujours aimé ça parce que je me rends compte
que... On n'a pas eu besoin de venir vous chercher.
Non, on n'a pas eu besoin de venir me chercher parce que, en fin de compte, pour moi, c'est souvent ce que je dis à mes élèves. Faire de la politique, pour moi, c'est un peu comme s'engager pour une cause, comme agir au sein d'une association, comme c'est s'investir pour la société. Et vraiment, pour moi, c'est un investissement du cœur. C'est-à-dire que je fais de la politique parce que je pense que quand on arrive effectivement à un niveau où on peut prendre des décisions, on peut changer les choses. Et on peut changer les choses pour améliorer la vie des gens. Alors, le problème, c'est que parfois, et même souvent, malheureusement, quand les gens ont du pouvoir, ils oublient pourquoi ils sont là. Et ils prennent le pouvoir et cette situation plus pour eux et pour les gens autour d'eux que ce pourquoi nous devrions être là, à savoir améliorer le quotidien, la vie des autres. Donc moi, je pense notamment à la jeunesse en Martinique. On va en parler. On vit dans un paradis, en fait. On est sur un petit caillou, mais qui est un bijou, qui est un diamant. On voit le rocher du diamant d'ici, c'est magnifique. Et c'est vrai que pour moi, la politique, c'est ça. C'est faire en sorte que le travail que nous faisons permette d'améliorer la vie de ceux qui vivent dans le pays où on est.
Et en même temps, c'est un milieu féroce.
C'est un milieu féroce parce que c'est un milieu de pouvoir. Et que malheureusement, à mon avis, certains hommes et certaines femmes ne sont pas prêts à avoir du pouvoir. Parce que le pouvoir, vous en faites, une fois que vous l'avez, c'est vous qui en faites soit quelque chose de positif, soit quelque chose, comme je vous disais tout à l'heure, de négatif. Et je pense qu'en fait, pour faire de la politique, il faut être bien dans sa tête, bien ancré dans le sol, savoir d'où on vient. Je pense que fondamentalement, il ne faut pas avoir besoin de la politique pour vivre. Ça, c'est très important. Les politiques qui s'accrochent, qui font des carrières politiques et qui vivent de la politique, pour moi, ne prennent pas tellement de recul. Moi, j'ai cette chance d'avoir un métier, d'avoir la possibilité de vivre d'autres choses. Et du jour au lendemain, si j'arrête la politique, je sais que je ne serai pas malheureuse. Mais d'autres en font vraiment des carrières. Et à ce moment-là, vous oubliez pourquoi vous êtes là. Fondamentalement, vous donnez votre temps, vous donnez votre énergie, vous donnez tout ce que vous avez dans la tête, toutes vos idées, tous vos projets, mais pour les autres.
Vous avez pris la responsabilité de l'industrie du tourisme en Martinique. Est-ce que vous vous épanouissez dans cette tâche-là ?
Beaucoup. Alors, justement, Ignace, juste pour revenir à ce que je disais, depuis que je suis connue en politique, entre guillemets, parce qu'on est une petite île et que, voilà, les gens m'arrêtent. Madame Mousseau, ils me disent, voilà, on a besoin de telle chose, j'ai telle chose qui ne va pas dans ma vie, etc. Et souvent, les gens autour de moi me disent, mais comment tu fais ? Les gens t'appellent, les gens te sollicite, je leur dis, mais je suis élue pour ça. Pour moi, le rôle de l'élu, c'est d'être toujours à l'écoute des gens, des autres, de ceux qui ont besoin, des fois tout simplement de vous parler. Même si je leur dis, moi je ne peux rien faire pour toi à mon niveau, mais je ferai remonter ton problème. Donc des fois, c'est difficile, il y a tellement de gens qui ont besoin de nous. Mais pour moi, c'est vraiment ça fondamentalement. Donc après le tourisme, j'arrive au tourisme un peu, je vais vous dire, par hasard, parce que quand on a fait ce contrat de gestion avec Alfred Marie-Jeanne, donc Yann Monplaisir et Alfred Marie-Jeanne ont signé ce contrat de gestion, nous avons négocié ce fameux soir de la négociation, cette fameuse nuit de la négociation, pour que le groupe de Yann Monplaisir, Bapey en chance, ait en charge l'économie et le tourisme. Donc ça a été négocié comme ça. Et ensuite, nous nous sommes réunis, donc avec Yann Monplaisir, pour, on va dire, se répartir les postes. Et puis, Yann Monplaisir souhaitait que je prenne la charge de conseillère exécutive en charge du développement économique, puisque économiste, etc., ce qui était un peu évident. Et puis finalement, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi, je lui ai dit, bon, écoute, aller au conseil exécutif, finalement, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai d'autres élections à mener, et notamment au niveau du François, voilà. Et c'est vrai que j'aime pas m'investir et ensuite devoir reculer quoi, dans cet investissement. Donc je lui ai dit, écoute, vaut mieux que je reste dans l'Assemblée, parce que si j'étais montée au Conseil exécutif, je sortais de l'Assemblée. Et donc les exécutifs n'ont pas du tout le même statut que nous qui sommes élus de l'Assemblée. Donc je lui ai dit, je préfère rester à tes côtés dans l'Assemblée. Et c'est là qu'on a proposé à Marinette Torpille de, d'occuper le poste de conseillère exécutive développement économique. Et puis, il y a eu la présidence du comité du tourisme. Donc, Yann m'a dit à ce moment-là, tu prends la présidence du comité du tourisme, tu ne seras pas à l'exécutif, donc tu pourras quand même mener tes campagnes, etc. Et c'est comme ça que ça s'est fait, j'ai accepté. Lui étant déjà quelqu'un qui connaît bien ce secteur du tourisme, il m'a dit de toute façon, je serai à tes côtés, on travaillera ensemble. Et puis, c'est comme ça que Yann Monplaisir me donne cette chance finalement de pouvoir être à la présidence du comité, le comité du tourisme qui est le bras armé de la collectivité pour le tourisme. Donc c'est vrai que j'y réfléchis souvent, je me dis en fait la vie bascule des fois comme ça en quelques minutes, en une discussion. Je remercie Yann Monplaisir depuis cette campagne, parce que c'est vrai qu'il m'a fait confiance sur beaucoup de choses. Hein. Tout a basculé quand je me suis présentée la première fois au François, où je suppose que Yann Monplaisir s'est dit, elle a quand même du cran, elle y va, face à un sénateur maire. On a fait une très belle campagne en 2014, on n'a pas démérité pour une première campagne. Et là, il m'a proposé donc de prendre la tête de section à ces élections. Je lui ai dit, là quand même, c'est un peu chaud, quoi. Je viens d'arriver. Il m'a dit, non, c'est toi, tu le feras bien, etc. Donc c'est comme ça un peu que tout bascule quelque part. Parce que vous rentrez dans un combat et finalement, un combat emmène un autre. Et puis, il m'a proposé cette présidence, donc je l'ai acceptée.
Et vous ne regrettez pas?
Je ne regrette pas parce que c'est une très belle expérience.
On va écouter un peu de musique.
Ah.
C'est pas pour vous déplaire.
Ah, pas du tout.
Avant d'écouter la musique, vous allez me choisir un chiffre entre 1 et 5. Parce qu'il y a 5 questions qui vont vous être posées par une voix féminine que vous ne verrez pas, dont vous ne verrez pas le visage. Et donc, vous me dites un chiffre, 3 chiffres entre 1 et 5.
D'accord. Tout de suite ?
Tout de suite.
Alors, on va dire le 1, le 3 et le 5.
Merci, on écoute un peu de musique.
Des piments qu'à songer, tout en disant moins qu'à frissonner. D'après moi, c'est l'amour. Passa rien, ou passa rien. Ni longtemps nous connaître, mais chaque fois nous qu'a rencontré, on tremblait qu'à prendre moi, si moi toujours baissé. Oui, watch moi raché. Ou toujours clairer l'ennui de moi. C'est où m'aller dans la vie moi. Passe-moi un mais où. Doudou. Moi père ou vêche, moi baou. Moi parle ou moque ou dis-moi. Qu'à m'ender, moins courage pour avouer la vérité.
mwen man kate Ou toujou klere lan nuit mwen Se ou mwen le Dan la vi mwen Pas mwen
Ça qui finit par ranger L'amour va pour si compliqué Qu'on soulier trop petit pour m'été La pluie finit en paix Je t'y m'en parle pour l'amour Pas gagné aïe pour frein à nous A sushi mais la vie nous
Mange à ça, tout ça qui finit par ranger L'amour va pour si compliqué Qu'on soulier trop petit pour m'été La pluie finit en paix Jodi nou pare pou l'amou Pa geni a ye pou frene nou A sushi me la vi nou
Si ou y ve gade tan tche mwen Ou e pou santi sa sa ye Si ou pe rentre dan l'esprit mwen Ou e pou santi ou la man ye Me manje a sav Sa ke fini pa ronje L'amou pa pou si komplije Kon souliye tro piti pou mette La pli fini tombe Jodi mwen pare pou l'amou Pa geni a ye pou frene nou A sushi me la vi nou Manja sa, tout sa ke fini pa ronje L'amou pa pou si komplije Kon souliye tro piti pou mette La pli fini tombe Jodi mwen pare pou l'amou Pa geni a ye pou frene nou A sushi me la vi nou
Manja sav
Manja sav
Manja sav
Ou mèm osi
Manja sav
Ou mèm osi
Manja sav
Mè oui manja sav
Manja sav
La da 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 da
Manja sav
Vous êtes dans Salon Privé, nous sommes lundi soir. Nous sommes en compagnie de Karine Mousseau, présidente du comité martiniquais du tourisme. Elle nous tient compagnie jusqu'à 23h. Karine Mousseau, vous nous disiez que pas de regrets. Pas de regrets, le tourisme, ça vous va bien.
Pas de regrets, c'est un milieu, donc, quand j'arrive en janvier 2016, un milieu que je découvre. Parce que ce que je connaissais du tourisme, c'est que ce que peut en connaître une économiste, c'est-à-dire le tourisme comme secteur qui peut vraiment tirer la croissance économique de la Martinique, ça je t'en reparlerai. Mais je découvre le terrain, je découvre les professionnels qui se battent, je découvre tous les secteurs Enfin, parce qu'il y a le secteur du tourisme, et dans le tourisme, toutes les niches, tous les secteurs sur lesquels il faut que je travaille.
Qu'est-ce qu'il nous manque pour que nous soyons vraiment en pointe dans la Caraïbe ?
J'ai envie de dire il nous manque rien, parce que ce qui nous manque, c'est du dynamisme, c'est de la volonté politique.
Sur tous les bancs à l'Assemblée, vous pensez que les élus, tous les élus sont convaincus que le tourisme, c'est une chance pour la Martinique.
Non, c'est pour ça que je te dis, ce qui nous manque, c'est la volonté politique. À partir du moment où on aura compris qu'en Martinique, on a un potentiel touristique énorme. Je te donne deux chiffres qui vont te faire réfléchir. On est à peu près, le tourisme représente à peu près les 9% de notre PIB, de notre produit intérieur brut, c'est-à-dire des richesses créées. Dans les îles à côté, on est à 50%. C'est-à-dire que le tourisme, par exemple, à Sainte-Lucie, c'est 50% de la création de richesses, 50% des emplois créés, etc. On a tout ce que Sainte-Lucie a, voire plus en termes de sécurité, par exemple, en termes d'infrastructure. Je ne sais pas si vous savez, ceux qui nous écoutent, mais Sainte-Lucie se vend, notamment aux compagnies de croisière, etc., en disant, et même aux touristes de séjour, en disant, nous sommes à un quart d'heure du plus grand hôpital de la Caraïbe. C'est-à-dire que Sainte-Lucie se vend grâce à notre hôpital, la Ménard. Et nous, je pense qu'à partir du moment où, à la tête de la collectivité territoriale, il y aura des élus, en particulier, bon, la politique vient vraiment du président du conseil exécutif. Donc un président du conseil exécutif qui fera du tourisme une priorité, nous investirons, nous ferons ce qu'il faut. Et je crois vraiment aujourd'hui qu'il n'y a pas d'autre secteur qui puisse créer autant d'emplois que le tourisme. On est pour moi à un quart de notre potentiel. En plus, les emplois créés dans ce secteur sont des emplois qualifiés pour nos jeunes. Parce qu'aujourd'hui, le tourisme, c'est un tourisme de qualité. Et il manque des structures qui doivent monter encore en qualité. Il manque de structures d'accueil. Il manque de tout. Et c'est cette activité-là que le tourisme peut créer. Et en plus, vous savez, un touriste, quand il arrive... On est tous des touristes quelque part, on se dit bon allez je mets tant d'argent pour mes vacances, mais une fois que vous arrivez sur place, quand l'ambiance est bonne, quand il y a de l'activité le jour, quand il y a de l'activité la nuit, quand il y a de quoi dépenser, ben on est en vacances, on oublie tout et on dépense et on ne s'arrête pas de dépenser, et cette dépense là elle est dans notre pays, dans la Martinique. Et c'est cette dépense-là qui va faire vivre la Martinique.
Pour avoir visité toutes les îles qui nous entourent, est-ce qu'il y en a une que tu as enviée ?
Non.
Pour son dynamisme, pour ses équipements, pour son...
Je vais te dire, sincèrement, c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé dans la Caraïbe depuis 3 ans. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai rencontré des populations qui se battent. Mais je ne les ai pas enviés parce que notre chance à nous, contrairement à peut-être ce qu'on croit, c'est que nous n'avons pas perdu notre âme, nous n'avons pas perdu notre culture, nous n'avons pas perdu notre âme. Je suis allée à Grenade, par exemple, j'ai pris un taxi en arrivant et je parle anglais au chauffeur de taxi et tout de suite je lui dis « Est-ce que vous parlez créole ?» Il m'a dit, en anglais, ça fait des générations qu'on ne parle plus créole à Grenade. Ça veut dire que eux, ils ont tellement pas d'autres moyens de s'en sortir finalement que le tourisme, donc on en parlera aussi, parce que le tourisme c'est bien, mais il faut faire attention quand on développe le tourisme. Ça doit pas être du tout tourisme. Il faut faire attention parce que vous avez ceux qui investissent, qui demandent de la rentabilité, etc. Et eux, quelque part, ils sont aujourd'hui en situation où ils sont en train de vendre leur pays pour survivre. Et le tourisme rapporte beaucoup à ceux qui investissent, les capitalistes qui investissent, les compagnies de croisière, etc. Mais à la population, on laisse quelques miettes. Donc, je ne les envie pas parce que je me dis... Peut-être que nous avons développé notre tourisme plus lentement. J'espère que après moi, ça va continuer, qu'on continuera dans cette voie parce qu'on a vraiment gagné en poids et on continue à gagner en poids. On a fait pour la première fois 1 million de touristes en 2017 et je pense qu'on est bien en dessous de notre potentiel. Mais en même temps, peut-être qu'en construisant comme ça, plus lentement, faisant plus attention, dans 10 ans ou 20 ans, On gardera la Martinique comme elle est.
Est-ce qu'il y a des erreurs qui ont été commises par le passé et qui nous portent préjudice aujourd'hui ?
Sincèrement, je peux pas dire ça. Je peux pas dire qu'il y a des erreurs qui ont été commises. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore.
Je pense par exemple à l'aménagement du territoire.
Oui. C'est-à-dire l'aménagement du territoire n'a pas été pensé parce que je crois que on a mis assez longtemps en Martinique à comprendre que le tourisme doit être une priorité. Donc l'aménagement du territoire n'a pas été pensé pour le tourisme. et d'ailleurs n'a peut-être pas été pensé pour nous, la population martiniquaise non plus. Donc c'est vrai qu'il y a, je dirais pas des erreurs, mais des choses à revoir, à repenser, à refaire. Mais je trouve que ça va dans le bon sens et que ça s'améliore parce que petit à petit, on a une génération qui arrive de jeunes, hein, entre 30 et 40 qui reviennent aujourd'hui dans leur pays, qui ont une autre vision, qui ont voyagé, qui ont vu des choses, qui comprennent la chance qu'ils ont d'être en Martinique et qui vont repenser les choses autrement, c'est-à-dire, oui, on peut bénéficier du tourisme tout en gardant une belle Martinique.
On a souvent dit, et pendant longtemps, que la Martinique souffrait d'un problème d'accueil. Est-ce que c'est encore d'actualité ?
C'est vrai, on l'a dit, mais je t'assure, Ignace, que ça s'améliore. Ça s'améliore parce que, d'abord, les professionnels, de plus en plus, je pense que ça fait, pour moi, une dizaine d'années qu'on a compris que le tourisme est une manne économique. Et petit à petit, les professionnels comprennent, les petits restaurateurs. Voilà, il y a tellement de choses qui peuvent se développer autour du tourisme. Les professionnels comprennent que c'est une manne et qu'ils doivent améliorer l'accueil, etc. En plus, tous les jeunes aujourd'hui qui travaillent dans le tourisme, qui commencent à travailler dans le tourisme depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, sont des jeunes qui sont beaucoup mieux formés que les générations d'avant. Tous ceux qui arrivent aujourd'hui sont bien formés et du coup, le niveau d'accueil s'améliore de jour en jour. Et je pense que d'ici 5 ans, on sera très très bien. Parce qu'on a une génération de jeunes qui arrivent, qui veulent travailler dans ce secteur, qui ont compris qu'ils peuvent tout simplement bien gagner leur vie dans ce secteur et du coup, la qualité s'améliore parce qu'ils sont de plus en plus qualifiés.
Qu'est-ce qu'on fait de nos croisiéristes quand ils arrivent à Fort-de-France un dimanche?
C'est la question que je pose aux commerçants de Fort-de-France depuis presque 3 ans maintenant. Nos croisiéristes, quand ils arrivent le dimanche, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de bateaux qui arrivent le dimanche. Donc moi, chaque fois, j'envoie à l'Association des commerçants de Fort-de-France les bateaux qui sont prévus dimanche et jours fériés en leur demandant de faire l'effort d'ouvrir, etc. Mais je pense que ça va venir aussi, ça. Je pense que c'est vrai que quand on ouvre un dimanche et qu'on n'a pas fait tant de chiffres d'affaires que ça, ben on se dit... finalement, je crois que le prochain dimanche, je ne vais pas ouvrir. Mais c'est en train de changer.
Est-ce qu'ils laissent vraiment des devises, nos croisiéristes ?
Tout dépend de ce qu'on leur propose, comme je dis aux commerçants. C'est à nous d'adapter l'offre à la demande. On a essayé, par exemple, de vendre sur le village croisière. On a fait appel à des artisans locaux. Ils ont très, très vite compris qu'il fallait adapter l'offre à la demande. Quand vous arrivez, vous avez plusieurs escales sur une semaine. Vous ne pouvez pas vous permettre de dépenser 200 euros à chaque escale. Surtout que nous, on a des très gros bateaux, donc c'est plutôt des classes moyennes, etc. Ce n'est pas des bateaux à haute contribution. Donc tout dépend de ce que vous allez proposer aux croisiéristes. Donc c'est à nous aussi d'adapter l'offre à la demande. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de formations avec les professionnels pour leur expliquer voilà, qui sont ceux qui descendent, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Alors, il y en a beaucoup qui partent en excursion, beaucoup, mais pas assez. Donc, moi, le but pour moi, c'est vraiment d'ouvrir justement ce marché de l'excursion croisière à des jeunes, des nouveaux, des personnes qui ont envie d'offrir quelque chose un peu d'inédit aux croisiéristes. Donc, là, je suis en train de travailler là-dessus.
Avec des taxis formés ?
Avec des taxis formés. Alors, eux aussi, les taxis... quand je suis arrivée au comité en 2016, je me suis dit, il faut que je voie d'abord les taxis, parce que tout le monde me disait, tu vas voir les taxis, oh là là. Et bien finalement, on a eu 2-3 réunions où ça a un petit peu chauffé, et puis ils ont dû se dire que... Enfin, je leur ai dit finalement, il faut pas qu'on se braque, parce qu'on veut tous aller dans le même sens. Vous avez besoin de travailler, tout le monde a besoin de travailler, et moi, ce qui m'arrange, c'est que vous donniez... un service au top à ceux qui descendent. Donc, eux aussi font beaucoup d'efforts. Ils font beaucoup d'efforts, notamment pour se former en anglais, sur l'accueil. Ils deviennent presque des guides touristiques, finalement, les chauffeurs de taxi. Et comme je leur dis, chaque fois que vous prenez une ou deux personnes, je vous fais confiance, parce qu'il faut que ces personnes-là descendent du taxi en disant « c'est génial, la Martinique, je reviendrai ». Donc, je leur dis, vous avez une responsabilité. Donc, là aussi, je trouve que les choses, tu vas dire que je suis très optimiste, mais je trouve que les choses s'améliorent. Ils ont notamment, je leur ai demandé quand je suis arrivée en 2016, de s'organiser, d'essayer de monter une application pour qu'on puisse... Donc, ils l'ont fait. Ils sont vraiment dans une bonne dynamique. Et puis, je crois qu'ils sont à mon conseil d'administration. Ils sont représentés à mon conseil d'administration par M. Descailles. Et ils ont compris que, pour moi, le but, c'est finalement que d'aller dans le même sens qu'eux. Parce que moi, je veux qu'il y ait plus de touristes pour que ça ramène, comme tu as dit tout à l'heure, des devises, de l'argent à la Martinique et que ça crée des emplois. C'est ça le but politique. Comme je leur dis, moi, je ne vis pas du tourisme. Vous, vous en vivez. Mais moi, je pense que si tout le monde fait un effort, tout le monde va y gagner.
Combien d'avions, combien de compagnies aériennes maintenant arrivent en Martinique?
Il y en a énormément. Donc déjà, on a une grande nouveauté, c'est qu'on a la compagnie Condor qui vient d'Allemagne. Donc ça, c'est nouveau. Là, on entame notre troisième année. Donc là, je suis très contente. Sur la France métropolitaine, bah, tu as les compagnies qu'on connaît depuis très longtemps, Air France, Air Caraïbes. Il y a XL Airways qui est arrivé en low cost, Corsair. Et puis, tu as en plus la compagnie Level qui est arrivée cette année. Donc, on a ça sur la France métropolitaine. Sur les États-Unis, actuellement, nous avons 28 vols par semaine. Enfin, États-Unis-Canada, c'est-à-dire sur Amérique du Nord, on a 28 vols par semaine, ce qui est énorme. Donc, c'est Air Transat, Air Canada, American Airlines et notamment, on en a beaucoup parlé, la Norwegian qui a... L'arrivée de la Norvégienne en Martinique a beaucoup, beaucoup débloqué les choses. Parce que nous avions donc les vols sur les États-Unis. Maintenant, la Norvégienne va au Canada. Et le travail que j'ai fait depuis 2016 avec l'aéroport, la SAMAC, France Todia, que je remercie parce qu'on travaille toujours main dans la main et c'est appréciable. C'était vraiment d'avoir un vol Fort-de-France-Cayenne. Parce que tu sais que sur le Fort-de-France-Cayenne, on avait Air France ouais. Et qu'on payait plus cher pour faire Fort-de-France-Cayenne que Fort-de-France-Paris, ce qui était complètement incohérent, une aberration. Donc, on a beaucoup travaillé pour avoir le Fort-de-France-Cayenne avec le président du comité du tourisme de Cayenne, de la Guyane, pardon. Et on a obtenu ce vol donc pour la première fois cette année. Donc là, on est en train de travailler pour que les taux de remplissage soient bons, puisque la compagnie ne garde son vol que si, évidemment, c'est rentable pour elle. Donc là, on peut aller à Cayenne pour 300 euros aller-retour, donc c'est pas négligeable. Donc vraiment, on travaille sur ces compagnies-là. Et puisqu'on est en train de travailler là, parce que je me suis dit, on a eu la Guyane, c'est bien. Sur le reste, on est très bien. Mais c'est les lignes inter-îles. Parce que sur le régional, on n'est encore pas bon du tout.
Il faut carrément 2 jours pour aller à Trinidad.
Exactement. Ce qui est une aberration. Moi, des fois, je pars à une réunion, sur une île, aux Bahamas, par exemple, je suis obligée d'aller à Miami pour aller aux Bahamas. Donc là, c'est une aberration. Alors, sur le régional comme ça, or, je pense qu'on ne peut pas, on ne pourra pas rester dans ce bassin caribéen sans avoir de lien avec les autres beaucoup plus facile et rapide. Je devrais pouvoir aller voir mes amis en Haïti ou n'importe où très vite et n'importe quel jour de la semaine. Alors le problème, c'est qu'il y a des freins juridiques en fait. Parce que nous, elles, ces îles sont indépendantes, donc elles ont les mains libres. Nous sommes toujours sous évidemment les lois françaises et européennes. Donc, pour négocier les droits de trafic, les visas, c'est toujours très compliqué. Donc là, on est en train d'essayer de travailler au sein de l'Organisation du tourisme de la Caraïbe, dans laquelle on est bien ancré, la Martinique, maintenant, On travaille sur ça pour essayer de lever ces freins, pour qu'on puisse développer le trafic inter-île, dans la Caraïbe. Et
on va écouter un peu de salsa.
Ah, j'adore la salsa. Tu sais que j'aime ça.
Et que tu la danses très bien en plus.
Ah, merci, c'est gentil.
Tú me dices rojo y yo digo verde. Tú quieres el cine y yo quiero la tele. Tú escuchas baladas y yo canto salsa. Y aunque nos queremos, no coincidimos en nada. Pa' arriba no va, pa' abajo no puede. Así es el amor cuando no sabe qué quiere. Pa' arriba no va, pa' abajo no puede. Así es el amor cuando no sabe qué quiere. Tú comes en casa, yo prefiero afuera. Tú no ves deportes y yo no veo novelas. Cuando quiero eso, tú quieres aquello.
C'est ce soir avec Karine Mousseau. Karine Mousseau qui nous tient compagnie jusqu'à 23h. Karine, l'aéroport aujourd'hui, on ne commence pas à y être un peu à l'étroit?
On y est à l'étroit, mais c'est parce que nous sommes victimes de notre succès finalement. On a de plus en plus de passagers, de plus en plus de trafic. On a donc nos touristes de séjour qui arrivent et qui repartent de cet aéroport Aimé Césaire. Et en plus, nous avons les croisiéristes home porting, c'est-à-dire toutes les personnes qui viennent du Brésil, d'Allemagne, d'Italie, Il y a un vol qui vient d'Italie pour amener des croisiéristes qui partent de la Martinique. Donc, je dirais oui, on est victime de notre succès parce que les agences et les compagnies de croisière...
Je sais qu'il existe un projet.
Voilà. Donc c'est pour ça que France Taudière s'est dit on ne peut pas continuer comme ça. Il a bien raison. Donc, il y a ce projet, effectivement, de l'aéroport, de l'agrandissement de l'aéroport. Donc, moi, j'ai vu le projet. Il est magnifique. Normalement, les travaux devraient commencer en 2019. Donc, la collectivité territoriale a bien aidé hein, pour ce projet, la SAMAC. Et ça sera un très beau projet et on aura vraiment un des plus beaux aéroports de la Caraïbe. Donc aujourd'hui, je suis très contente parce qu'il faut monter d'un cran. À un moment, il faut faire des investissements. Si vraiment, politiquement, on est persuadé que le tourisme va tirer notre croissance, nos emplois, etc., on est obligé d'investir. Mais ces investissements ont un tel retour que c'est tout bénef pour tout le monde. Donc on aura normalement un très bel aéroport avec un hôtel à côté. Enfin, normalement, il devrait y avoir vraiment du lourd au niveau de l'aéroport.
Nos problèmes ont été très, très relayés sur les grands médias français. je veux parler du chikungunya, je veux parler du chlordécone, je veux parler des sargasses. Quelle incidence sur la fréquentation de notre île? Est-ce que c'est mesurable d'abord?
Et tu as même oublié le Zika.
Et le Zika.
Oui, c'est mesurable. Donc, quand je suis arrivée en 2016 au comité martiniquais du tourisme, justement, je me suis dit que tout ça, on doit pouvoir le mesurer, qu'il faut qu'on ait des chiffres, parce que c'est ma formation, hein, j'ai fait de l'économétrie. Et les chiffres permettent justement de prendre des décisions au bon moment, de voir les impacts que peuvent avoir ce genre de relais médiatiques. Donc, tout ce dont tu parles a eu des impacts très importants sur les réservations. Donc, on voit tout de suite sur les réservations, donc les chiffres, les hôtels nous donnent leurs chiffres. Et puis, on a les réservations sur Internet, d'avions, etc. Donc, on utilise des outils qui nous permettent effectivement de voir les désastres que ça peut faire. Donc, il y a eu, depuis que je suis là, la première crise du Zika, puisque je ne sais pas si tu te souviens, la ministre de la Santé avait fait une déclaration catastrophique, désastreuse, sur les médias en disant surtout n'allez pas en Martinique, surtout les femmes enceintes. Donc nous, tout de suite, on réagit quand il y a des communications comme ça. Nous travaillons avec une agence à Paris, justement, qui essaie de maîtriser la communication, c'est-à-dire faire en sorte qu'on étouffe un peu, que ça ne fasse pas boule de neige, mais tu peux faire ce que tu veux avec les réseaux sociaux, etc. Ça va très vite. Donc, dans ce cas, on essaie de réagir. Donc, ce qu'on avait fait au niveau, quand il y a eu cette déclaration, on a fait une campagne dans le métro l'année du Zika, une campagne pour essayer de redonner un peu confiance aux gens, etc. Donc, on a essayé de contrebalancer comme ça. Les sargasses et le chlordécone, donc ça, c'est plus récent. Pareil, l'impact, on le voit. On le voit encore, hein, là. Pendant qu'on parle, 2018-2019, ça va être assez difficile. Quand nous avons reçu les ministres en Martinique, donc on a reçu le Premier ministre, la ministre de l'Outre-mer et Nicolas Hulot à l'époque. Donc, avec l'équipe, ma directrice, Madame Désir, on a rencontré le cabinet des ministres. Et moi, je les ai interpellés sur ce problème de communication. Je leur ai dit, en 10 secondes de communication là-bas, vous pouvez nous faire perdre 10 mois de travail. Donc, je leur ai dit, maîtrisez votre communication parce que nous vivons du tourisme. Nous, en tout cas, nous voulons en vivre et ça peut être désastreux pour nous. Donc, OK, les sargasses, par exemple, on peut dire les sargasses, il y a des sargasses, mais surtout le message qu'il faut faire passer, c'est que nous, l'État français, nous prenons en charge les sargasses et qu'on va les ramasser. C'est ça que je vous demande de dire. Mais enfin, ils avaient déjà tellement dit qu'il y avait des sargasses. Donc, j'ai bien aimé le chef de cabinet de la ministre de l'Outre-mer me répond « Ah oui, c'est vrai. Bah oui, on n'y avait pas pensé. J'ai dit, bah, il faut y penser parce que ça fait mal. Ça fait mal à l'hôtellerie, ça fait mal à toutes les personnes qui louent des meublés de tourisme. Parce qu'il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui louent des meublés, qui refont leur bas de villa, qui font des petits bungalows, etc. Parce qu'ils ont compris que ça va leur apporter de l'argent et ils ont raison parce qu'il y aura de plus en plus de touristes.
Quel est l'état du parc hôtelier aujourd'hui ?
C'est très compliqué. C'est très compliqué. À l'heure où je te parle, le parc hôtelier est en mauvais état. Nous avons des fleurons de l'hôtellerie en Martinique. Le Bacois, l'hôtel La Batelière, et puis d'autres hôtels aussi qui ont vraiment besoin d'être rénovés. Mais là, ça va se faire. C'est-à-dire que là, normalement, au Bacois, ils vont rénover, la Batelière va rénover. Et je pense que quand 2-3 hôtels vont rénover, ça va un peu tirer l'offre vers le haut. Et puis, on va retomber dans un cercle vertueux. Mais si tu veux, il faut qu'il y en ait un ou deux qui fassent le pas. Alors, le problème pour les hôtels, si tu veux, c'est qu'ils étaient tombés dans le cercle contraire, le cercle vicieux. C'est-à-dire que chambre pas rénovée, tu ne peux pas la vendre très cher. Si tu la vends pas très cher, tu rentres pas beaucoup d'argent. Et quand tu rentres pas beaucoup d'argent, quand tu as payé tes salariés, les charges sociales, etc., tu as plus d'argent pour rénover. Donc là, ce qui est en train de se passer, c'est que comme le nombre de touristes de séjour s'est remis à augmenter depuis 2016, en fait, depuis l'année 2016, enfin, on a une inversion de la tendance, je pense que les hôteliers reprennent confiance aussi et se disent, finalement, on peut peut-être prendre le risque, entre guillemets, de réinvestir, de rénover pour vendre plus cher, tirer les prix vers le haut, parce qu'il faut que les hôtels payent leurs salariés, etc. Et on est en train de retomber dans une dynamique plus positive.
Que devient le projet d'hôtel à Pointe-du-Bourg en remplacement du Méridien ?
Alors, donc il y a eu un premier projet, et puis finalement ce projet a été abandonné. Mais là, on a un nouveau porteur de projet. Donc normalement, je pense que ça devrait marcher avec ce nouveau porteur. Après, il y a deux autres hôtels qui doivent être repris. C'est l'hôtel Marouba au Carbet, parce que ça fait un moment qu'on attend qu'il soit repris.
Et le Diamond Rock ?
Le Diamond Rock, c'est plus compliqué, parce que tu sais que c'est la Seine-Saint-Marc qui est sur ce projet. Et en ce moment, la Seine-Saint-Marc, c'est une catastrophe.
Sur les sables mouvants.
Voilà, donc on est un peu déçus. Donc, tu as l'hôtel Club des Trois-Îlets aussi. Donc l'hôtel Club des Trois-Îlets et le Marouba, ça y est, on a fait un appel à projet, on a reçu les dossiers. C'est la collectivité territoriale qui s'en occupe, hein, c'est pas le comité martiniquais du tourisme. Mais apparemment, il y a deux porteurs de projets qui ont été choisis pour ces deux hôtels-là, donc ça devrait se faire. Alors maintenant, le Diamond Rock, c'était bien parti, le projet était monté, leur dossier était monté et tout. Et puis là, on attend, parce que c'est vrai qu'avec ces mouvements un peu en ce moment difficiles. Mais sincèrement, je pense vraiment que d'ici 2-3 ans, on aura de bonnes nouvelles. On aura de bonnes nouvelles, parce que tout est une question d'anticipation et de dynamique. Si les gens pensent que ça va aller mieux, finalement, ils se remettent à espérer et à investir. Quand on se dit, oh, ça ne va pas marcher, on aura moins de touristes que l'année dernière, etc. On se dit, à quoi bon faire des travaux, investir. Mais il y a des bonnes nouvelles. On a eu un chiffre exceptionnel en 2017. Là, l'année 2018 se termine. On aura aussi un très bon chiffre. En 2019, on a une petite prévision de baisse, mais qu'on va contrecarré par une grosse campagne sur les télés nationales en France. Parce que la baisse, elle vient des touristes de France hexagonale, d'accord ? Puisque ça reste quand même notre principal marché émetteur. Donc sur les autres destinations, Canada, États-Unis, on est en augmentation permanente. On a plus de vols encore cette année, notamment sur le Canada. On a 5 vols en plus. Donc on a 8 vols au total par semaine. Donc on aura une belle année sur les États-Unis et le Canada. Par contre, en France métropolitaine, il y a une espèce de concurrence entre les destinations qui est terrible. C'est-à-dire qu'il faut, c'est ce que j'ai expliqué au président Marie-Jeanne et qu'il a entendu, enfin, il faut absolument qu'on soit présent sur les médias avec des grosses campagnes. Il faut être agressif, en fait, parce qu'on est face à des concurrents.
La Guadeloupe est un concurrent important.
Sur le marché français hexagonal, oui. Parce qu'en fait, compte, les gens, ils ont envie de partir au soleil. Guadeloupe, Martinique, bof. En fin de compte, ils vont choisir l'endroit qui leur est resté dans la tête. Or, la Guadeloupe investit chaque année, comme j'expliquais au président Marie-Jeanne, sur des campagnes télévisées que tu dois voir, sur des campagnes 4x3 dans Paris, dans les villes de province, etc. Nous, depuis 2011, on n'a pas eu de campagne télévisée. Donc, je trouve qu'à la limite, on ne s'en sort pas trop mal. Mais il faut, là, comme je l'ai dit au président Marie-Jeanne depuis que je suis arrivée, il faut qu'on réattaque sur les médias pour ne pas perdre notre marché France hexagonale. Donc, moi, j'ai voulu, si tu veux, qu'on diminue la dépendance à la France hexagonale. Parce que quand tu ne dépends que d'un marché, c'est catastrophique quand tu as une touriste qui dit « N'allez pas en Martinique ». Donc, c'est vrai que depuis que je suis là, on a réduit la dépendance de presque 20 points parce qu'on est passé on était à pratiquement 80% France hexagonale. Aujourd'hui, on est allez, presque à 60%. Mais si tu veux, il faut quand même garder ce marché. Pour le garder, on est obligé d'investir en communication. Et une campagne de communication sur les télévisions nationales, ça coûte très cher. Donc là, le président Marie-Jeanne m'a accordé 1 million pour cette campagne-là. Donc, je vais vraiment mettre une grosse partie sur la France hexagonale et un peu sur le Canada, parce que je pense que sur le Canada, on a encore du potentiel.
Est-ce qu'on n'aurait pas pu vendre nos vedettes, vendre nos sportifs?
Non.
Vendre nos personnalités. Enfin, il y a des Martiniquais quand même qui sont très connus en France.
Je suis d'accord. Eh bien, figure-toi, comme quoi... Figure-toi que donc en 2016, quand je suis arrivée, j'ai tout de suite compris, parce que les autres destinations le font. Barbade se vend grâce à Rihanna. Donc j'ai tout de suite dit à ma directrice, il faut qu'on mette en place ce que moi j'ai appelé le programme ambassadeur, c'est-à-dire des personnes qui vont porter nos couleurs. Des fois, il suffit de 20 secondes de film pour... Alors donc, effectivement, on a mis en place ce programme ambassadeur, notamment avec des sportifs. Donc là, on a commencé le programme. C'est une jeune qui est venue au CMT pendant 6 mois et qui a travaillé là-dessus. Donc on a déjà comme ambassadeur Sandrine Gruda,
basketteuse.
Qui est une grande basketteuse que j'ai rencontrée du coup et qui m'a bluffée. Parce que je me suis dit, mais il y a des jeunes fantastiques, des jeunes Martiniquais que les Martiniquais ne connaissent pas. C'est-à-dire, elle est plus connue à l'extérieur, partout où elle a joué, en Russie, en Turquie, etc., qu'en Martinique. Alors déjà, mon premier objectif, c'est de faire connaître nos ambassadeurs en Martinique et puis effectivement de les utiliser sur nos marchés. Donc ça peut être un petit film, ça peut être... Voilà, donc j'ai Sandrine Gruda, j'ai Dimitri Bascou aussi, qui est un athlète martiniquais. Donc on essaie vraiment, comme tu dis, de trouver des relais pour porter ce message. Alors, j'aurais aimé maintenant qu'on ait plus de musiciens, de jeunes, même de jeunes musiciens qui ont un message, qui portent des messages extraordinaires et qui portent le message de la Martinique. Je suis allée voir il y a peut-être 2 semaines un concert d'Izzy Kenenga et je le regardais, je me disais, voilà un bon ambassadeur. Parce que son message, ce qu'il dit... l'image qu'il véhicule, c'est la Martinique. C'est la chaleur, c'est l'amour, c'est, comme il dit, soldat en mots.
Vous ne l'avez pas approché?
Alors, je l'ai approché, donc bon, on va se voir. Parce que c'est vrai que, voilà, des gens comme ça, tu as envie qu'ils représentent ta destination, parce qu'ils ont tout pour le faire. Et puis, j'ai un projet avec un Martiniquais très connu, qui s'appelle Raphaël Varane. Et lui...
Est-ce qu'il se reconnaît vraiment martiniquais?
Oui. Alors du coup, oui. Donc j'ai rencontré son équipe déjà. Oui, ils sont... Et là où ça m'a fait tilt, en fait, parce que c'est quand j'ai vu son père pendant la Coupe du Monde, en Martinique, dans sa famille, etc. Je me suis dit, ah là, ça veut dire que l'éducation fait que forcément, il n'a pas pu se détacher de ce lien. Et donc effectivement, effectivement. Et figure-toi que pendant la Coupe du Monde, il avait fait une petite vidéo. Mais vraiment, je ne sais pas combien de secondes, mais pour moi, ça vaut des millions. Où il disait « Coucou la Martinique ». Cette vidéo, elle a été reliée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Et comme j'ai expliqué à son manager, qui est son frère, que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, là, il y a trois semaines, ou un mois, je disais à son manager, pour nous, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce qu'il peut faire pour la Martinique, c'est extraordinaire. Mais il en a conscience et je pense que donc là, on est en train de discuter, voir comment on peut le faire, etc. Donc... Non, je suis d'accord avec toi. Il faut utiliser nos Martiniquais. Je pense à nos artistes. Je pense à tous nos artistes. Au groupe Malavoir, Alf Tamar, Jocelyne Béroy. Enfin bon, je peux même pas tous les citer.
Allons écouter Jocelyne.
Super.